Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Jean-Louis Chambon.
Chers amis de France et du bout du monde, bonjour. Heureux de vous retrouver sur l'antenne de Canal Academy à l'Institut de France pour un nouveau Au fil des pages qui nous donne le grand plaisir de retrouver le professeur Olivier Pastret qui vient de publier avec Jean-Marc Sylvestre aux éditions Fayard « On nous ment » et sous-titré « Vérité et légende sur la crise ». Donc un ouvrage publié chez Fayard. Ce sous-titre donne le ton général de cet ouvrage. Cher Olivier, bonjour.
Bonjour.
Très heureux de vous accueillir à nouveau sur notre antenne. Je rappelle, vous êtes professeur d'économie à l'Université de Paris 8, animateur, chroniqueur et auteur à succès. Vous avez décidé à nouveau de parler vrai et dire ces vérités qui sont si bonnes à dire. Et vous récidivez, puisque ceci se fait en duo avec Jean-Marc Sylvestre, journaliste et économiste. Vous reconstituez ce duo magique d'auteurs qui vous a valu à l'un et à l'autre d'être les lauréats du 22e prix Turgot, du meilleur livre d'économie financière. Et cette fois-ci, vous récidivez sur le sujet de la crise en élargissant votre réflexion et en braquant le projecteur sur un thème général qu'on pourrait synthétiser par de l'usage du mensonge en économie et en politique. Alors, nous allons passer en revue ces grands ou ces pieux mensonges, et peut-être en commençant par un sujet qui vous touche directement. Je vous lis à la page 25. Les politiques, les médias et l'opinion hésitent à remettre en cause des jugements ou des perspectives appuyées sur un corpus théorique savant et soutenu par une modélisation aussi séduisante qu'absconce. En clair, il n'y a pas de contrepoids au discours économiste. On lui a fait crédit pendant 20 ans en s'étant convaincu qu'il fournissait aux différents acteurs du marché la meilleure information possible. Alors voilà, c'est assez direct. La crise, les économistes étaient un petit peu à côté.
Pour beaucoup d'entre eux, oui, pour certains un peu moins. Mais ce qui nous a frappé, encore une fois, Jean-Marc Sylvestre est fondamentalement libéral et moi je suis fondamentalement colbertiste, donc on n'a pas les mêmes approches idéologique, disons, mais le point qui nous rapproche, c'est la pédagogie, c'est-à-dire expliquer. Or, jamais, et c'est l'idée même du livre, depuis l'éclatement de la crise, on a assisté à une déferlante de mensonges aussi brutale. Si on n'arrive pas à clairement identifier les problèmes, on n'arrivera pas à sortir de la crise. Et c'est ça l'objectif du livre. Alors, dans cette confusion, tout le monde a sa part de responsabilité. Les politiques,
les médias,
mais aussi les économistes. Les économistes ont souvent fait des diagnostics qui étaient erronés, ont souvent joué un rôle en disant c'est la crise de 29 ou la crise est finie, ce qui est aussi imbécile dans un cas comme dans l'autre. Et donc tout le monde est responsable et l'objectif c'est d'essayer de définir les bons diagnostics pour arriver à trouver les bonnes solutions.
Voilà, c'est ce que vous dites d'une phrase en page 51, la crise est finie. Oui, mais pour de nombreux Chinois, Brésiliens ou Indiens, c'est certain. Mais pour beaucoup, en Occident, aux États-Unis et en Europe, la vraie crise commence et le plus dur reste à venir. Alors, le plus dur, c'est quoi ?
C'est le mensonge fondateur. On balaye toute une série de mensonges. Celui-là est fondateur. Si on considère que la crise est finie, on arrête de faire des réformes, on arrête de faire des efforts. Et à ce moment-là, on est sûr d'arriver à une crise extrêmement grave parce qu'il y a toute la régulation de l'économie mondiale qui est à remettre en perspective et en place. Donc aujourd'hui, si on regarde l'économie mondiale, on a toujours les mêmes déséquilibres d'épargne avec les Chinois qui ne consomment pas assez et les Américains qui consomment trop. Tout ça, ça fait des milliers de milliards de dollars et ça a des effets évidemment très perturbants. La croissance aujourd'hui, sans endettement, puisqu'il n'y a plus d'endettement, l'endettement privé c'est interdit, l'endettement public ça devient de plus en plus difficile. Donc la croissance sans endettement, ça va faire des taux de croissance en Europe, je cite toujours ce chiffre, de 1% pour les 5 ans qui viennent, 1% par an. Bon voilà, il va falloir vivre avec ça, il va falloir s'adapter à cette situation.
Comment précisément, en rigueur ou relance, lorsqu'on a un taux de croissance de 1% et que la plupart des prévisionnistes intègrent dans leur budget des taux de croissance très largement supérieurs, ça veut dire qu'ils évacuent une large partie du problème. Donc il va falloir faire des efforts, de vrais efforts.
Oui, vous disiez rigueur ou relance, qui fait référence à un ouvrage bien connu.
Oui, oui, dans lequel vous avez largement participé.
Rigueur ou relance, il faut les deux, mon général. Il faut à la fois de la relance parce qu'il faut préparer l'avenir. Il faut de la relance parce qu'on est dans une situation de crise et il faut soutenir l'économie. Et en même temps, il faut de la rigueur parce qu'on n'arrivera pas à régler tous les problèmes en transférant toutes nos dettes aux générations futures. Et donc, il faut d'une manière ou d'une autre de la rigueur. Mais quand vous regardez dans le détail, c'est-à-dire quand vous arrêtez de les carabistouilles qu'aiment bien les politiques et certains économistes et que les médias relaient, si vous arrêtez ces carabistouilles, vous reprenez chacun des dossiers, il y a des solutions, les marges de manœuvre, elles existent. Il faut surtout ne pas être décliniste aujourd'hui.
Alors, vous passez en revue, pour continuer sur les différents chapitres que vous abordez du champ de ces mensonges, et vous rappelez d'ailleurs avec Mark Twain qu'il y a plusieurs sortes de mensonges, les mensonges, les gros mensonges et les statistiques. Donc,
j'imagine... Il faudrait ajouter les agences de notation.
Les agences de notation. Alors, bon, vous parlez des salaires des patrons, vous parlez de l'immigration, que la soi-disant impuissance de l'État. Alors, je voudrais peut-être aborder ceci, ça nous permettra de faire un lien avec l'actualité. Deux points que vous traitez, à savoir d'un côté l'Europe et l'euro. Vous dites à votre chapitre 14, l'Europe va imploser.
Ça, c'est le mensonge.
Ça, c'est le mensonge, donc je vais y revenir. Et puis deuxièmement, l'inflation, déflation, le retour, etc. Alors, l'euro et l'Europe, la journée de l'Europe s'est tenue le 9 mai. Et selon un sondage TNS Sofres pour la Fondation de l'innovation politique, 67% des Français ont envie de conserver l'euro contre 30% qui préféraient revenir au franc. Mais 82% des sondés jugent l'euro responsable de l'augmentation du coût de la vie et la jugent aussi trop complexe à près de 80%. Donc il y a une sorte d'ambivalence des sentiments qui s'inscrivent d'ailleurs en résonance du papier assez remarquable que vous avez fait dans le Figaro et dans lequel vous disiez votre opposition à des mesures qui consisteraient à vouloir choisir le retour au franc. Alors, c'est un mensonge aussi. L'euro va éclater.
La situation est extrêmement simple. Aucun des pays européens n'a intérêt à l'explosion de l'euro. Le premier pays qu'on cite souvent comme étant, comme voulant sortir de l'euro, c'est l'Allemagne. L'Allemagne a construit toute sa croissance des 10 dernières années sur l'exportation, ce qui implique qu'elle ait une monnaie qui n'explose pas à la hausse. Si on revient au Deutsche Mark, il est sûr que le Deutsche Mark va exploser à la hausse, parce que ça sera considéré comme une bonne monnaie. À partir de là, le système économique allemand disparaît. Donc, aucun des pays n'a intérêt à cette explosion. Alors, ce qui est vrai par ailleurs, c'est que l'Europe économique n'existe pas encore, ou la gouvernance économique de l'Europe n'existe pas encore, qu'on a signé un traité de Nice qui est complètement idiot, et qu'il est difficile de définir une politique économique européenne, d'éviter qu'il y ait des concurrences fiscales. Mais ça, c'est la vie quotidienne. Jamais l'Europe n'a fait autant de progrès que depuis la crise grecque et la crise irlandaise. L'Europe, il y a une expression triviale qui est « il faut souffrir pour être belle ». Voilà, l'Europe c'est ça, il faut souffrir pour être belle, il faut des crises pour avancer.
Mais c'est une confirmation de votre pensée que l'on retrouve dans votre ouvrage, mais aussi dans un certain nombre d'interventions que vous avez faites dans les médias. Alors, autre grand sujet, l'inflation. Quid de l'inflation? Le retour, pas le retour? Beaucoup d'observateurs considèrent que, serait-ce que par les demandes d'augmentation de salaire, pouvoir d'achat, etc., et puis aussi par l'inflation, si je puis dire, importée des matières premières, etc., on y va tout droit. Alors, quel est votre sentiment?
Là aussi, c'est un mensonge. L'économie, c'est une science très simple. Il y a en fait 3 ou 4 concepts. Dans ce domaine-là, c'est très simple. Il y a trop de travail, c'est-à-dire qu'il y a trop de gens dans les pays du Sud qui ont envie de venir sur le marché du travail pour que les salaires explosent, puisque chaque fois qu'il y a un problème, il suffit de faire venir 50 millions de Chinois en plus sur le marché du travail pour exercer une pression à la baisse. Donc il y a trop de travail. Par ailleurs, comme les pays émergents se développent, il y a aussi trop de capital. Les émergents ont construit des usines qui viennent en concurrence avec les usines du Nord. Donc, si vous avez trop de capital et trop de travail, il n'y a aucun risque d'augmentation des prix. Alors, ceci ne veut pas dire qu'il n'y apparaîtra pas une ici augmentation du prix des matières premières. Il se trouve que notre cher Alan Greenspan, ancien patron de la Fed, a créé tellement de liquidités à l'échelle mondiale qu'aujourd'hui, on est en situation de surliquidité. S'il y a surliquidité et pas assez d'actifs en face, surliquidité monétaire et pas assez d'actifs en face, il y aura forcément des augmentations du prix des actifs monétaires. Et de ce point de vue-là, des actifs financiers. Et de ce point de vue-là, il faut s'attendre à des bulles. Mais sur l'économie dite réelle, c'est-à-dire la production et la consommation, les risques d'inflation sont très faibles. Alors, il n'y a que Jean-Claude Trichet, que j'estime par ailleurs, et qui a remarquablement géré la crise, qui continue parce que c'est son mandat, et donc c'est pas lui qui est en cause, de désigner toute tension inflationniste. Bon, c'est clair que le prix de l'essence va continuer à monter, mais ça, c'est une tendance qui existait avant la crise et qui va continuer après.
Mais structurellement, il n'y a pas de raison pour que l'inflation...
Sauf dans les pays émergents, et donc peut-être que dans 5 ans, il y aura des tensions inflationnistes en Chine très fortes parce qu'il y aura des augmentations de salaires, mais on n'en est pas là. Commençons à régler les problèmes qui sont déjà en face de nous.
Alors, le plus dur reste à venir, dites-vous, par rapport à la crise, et vous identifiez au moins 4 grands risques. Premièrement, une faillite des États-Unis, cessation de paiement, en gros, plus d'argent. Deuxièmement, le protectionnisme. Alors ça, c'est un thème aussi qui vous est très cher. Et troisièmement, ce qui plane à travers le monde globalisé, l'immoralité des dirigeants. Néanmoins, vous restez optimiste sur notre capacité à tous de sortir de cette crise qui porte encore son nom.
Il y a deux raisons d'être fondamentalement optimiste. La première, c'est qu'il y a qu'en France, je fais de la provocation. Qu'on n'aime pas travailler. Dans tous les pays du monde, on aime travailler, on continue à travailler, on continue à produire, et donc les taux de croissance de l'économie mondiale restent forts. Ça, c'est un élément d'optimisme fondamental. Deuxième élément d'optimisme, les politiques sont un peu moins aveugles qu'ils l'étaient avant. Avant, ils avaient une pensée unique et ils ne réfléchissaient pas aux problèmes économiques. Aujourd'hui, ils ont quand même fait beaucoup de progrès. Et donc, il y a des pilotes dans l'avion. Il y en a à l'OMC, il y en a au FMI, il y en a dans le G20. Donc, ça, c'est les éléments d'optimisme. Ceci posé, il y a aussi des éléments d'inquiétude. Les États-Unis sont en faillite, c'est un fait objectif, c'est pas un jugement de valeur, c'est pas de l'anti-américanisme primaire. Il y a un moment ou un autre où les Chinois vont refuser de continuer à financer à fond perdu l'économie américaine. Et puis, il y a le risque que vous évoquiez de protectionnisme. On a échappé au pire grâce à l'OMC, grâce au G20. Mais regardez, en matière monétaire, la baisse du dollar, c'est une mesure protectionniste. Le protectionnisme n'est pas que commercial, il peut être aussi monétaire. Et dans ce domaine-là, je continue à être assez inquiet.
Et qu'est-ce qui pourrait faire qu'à un moment donné, les grands de ce monde, enfin donc les représentants des grands pôles géopolitiques, finissent par trouver un juste prix, si je puis dire monétaire, donc d'équilibre monétaire, alors qu'on voit bien que chaque fois, les tensions écartent les positions des uns et des autres.
Je reviens à mon expression triviale, il faut souffrir pour être belle. C'est malheureusement au travers de crises qu'on va trouver des ajustements nouveaux. Clairement, il y a pour le moment un accord entre la Chine et les États-Unis pour le dollar et donc le yuan baissent gentiment, ce qui pénalise l'Europe. La question que vous posez, c'est quelle place peut avoir l'Europe dans tout ça parce que sur le fond, les Chinois et les Américains ont objectivement intérêt à trouver un équilibre monétaire. Et je trouve que c'est une bonne chose que le président de la République française, qui a pour cette année la présidence du G20, ait mis les problèmes monétaires au cœur des discussions. Mais encore faudrait-il que l'Europe soit un peu plus construite qu'elle ne l'est aujourd'hui.
Alors, dernier point, côté finance, régulation et la gouvernance internationale là, qui tarde à apparaître. Et puis, une espèce de crainte que beaucoup d'observateurs conservent, c'est qu'est-ce qu'il y a dans les placards des banques encore aujourd'hui ? La crise des dettes souveraines a un petit peu sonné l'alarme, mais y a-t-il encore des produits exotiques, etc., encore en masse un peu partout ? Le secteur bancaire s'en défend, mais il peine à convaincre, enfin en tout cas au moins les agences de notation, entre autres.
Oui, des canards dans les placards, il y en a encore malheureusement beaucoup. La preuve, c'est que les dettes souveraines étaient considérées comme étant nickel-chrome il y a quelques mois. Aujourd'hui, on commence à se poser des questions. Donc là-dessus, le vrai problème, c'est le problème de la régulation financière et bancaire.
C'est ça.
Et dans ce domaine-là, on peut être un peu déçu par les premiers G20, puisqu'il y a eu, à part le G20 de Londres, où il y a eu quelques mesures prises en matière de bonus des traders, en matière de lutte contre les paradis fiscaux. Depuis, on n'avance pas très 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 vite. Et c'est extrêmement inquiétant. On a un peu l'impression que les banques sont revenues à leurs errements du passé, aussi bien en termes de rémunération, problème que vous évoquiez tout à l'heure, qu'en termes même d'opérations. Donc là-dessus, il faut continuer à être extrêmement vigilant. Je ne suis pas inquiet parce qu'on a fait au moins un progrès, c'est qu'on sait un peu mieux comment le système fonctionne et où sont les dysfonctionnements. Il reste maintenant à mettre en place les garde-fous qui permettront d'éviter une nouvelle crise, ce qui n'est objectivement pas encore le cas.
Alors, un dernier message peut-être à l'issue de ce travail que vous avez fait en commun, qui est assez remarquable, auquel vous passez en revue tous les points sensibles, si je puis dire, à la fois d'actualité et structurellement. Votre message final, c'est quoi ? Ça va être dur, mais on est tout à fait en situation de pouvoir s'en sortir dès lors qu'on s'implique un peu tout. C'est un peu ça, c'est ce que j'ai compris.
Je vais réinventer le MRP, qui était un parti de centre-gauche il y a quelques années. Pourquoi ? M, c'est modeste. Soyons modestes, on ne sait pas tout, et prévoir, c'est quand même une science très difficile. R, c'est résolu, il faut faire des réformes, Il faut continuer à moderniser notre économie. Épée, c'est pédagogue. Ça veut dire qu'il faut expliquer sans cesse. Ça, c'est mon métier, mais je pense que c'est la responsabilité de tout le monde. Si on veut que les Français comprennent ce qu'est la crise et ne désignent pas ou les politiques ou les médias ou les économistes comme des boucs émissaires, je pense qu'il faut faire de la pédagogie.
Oui, et c'est ce que vous faites notamment à travers cet ouvrage, mais à travers bien d'autres, puisque vous dirigez un certain nombre de publications, et notamment celle qui a été réalisée par le duo Tesmar et Landier, qui lui-même a reçu le prix Turgot de cette année. Donc de la pédagogie, encore de la pédagogie, on peut compter sur vous. C'était les convictions de Olivier Pastret et Jean-Marc Sylvestre qui viennent de faire paraître chez Fayard « On nous ment, vérité et légende sur la crise », un ouvrage de 280 pages pour 18 euros.
À peine.
À peine. Très bien. Merci à vous, c'est le professeur.
Merci beaucoup.